consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Le Grand Sceau, un texte de Thibaut Dubreuil, sur une lecture de Fanny Lerest, Bertrand Chollet, Enoral Nézette, Léane Garnier, Sacha Dubreuil, Corentin Boutou, Gaëtan Géhanneau, Sophie Porzier et l'auteur. Première partie sur 6.
Bien. Bonjour. Je sais qu'il y a des bruits qui courent dans le lycée, c'est pourquoi je suis ici. Vous avez constaté que votre camarade de classe, Paul Janvier, était absent depuis plusieurs jours. Il a fait une tentative de suicide. Moi, je ne peux vous dire que ce que je sais, ce que les médecins m'ont dit, et ses parents aussi. Il s'est défenestré du 6e étage. Dans son malheur, sa chute a été amortie par des arbres et des buissons, ce qui fait qu'il est vivant, contrairement à ce qui se dit. Il est vivant et il est dans un coma artificiel. Les médecins m'ont dit que c'était un cas exceptionnel, qu'il a eu de la chance. Il a des côtes cassées, un bras aussi, de multiples contusions et des griffures profondes sur tout le visage. Ils ne savent pas s'il pourra récupérer ses yeux. Plus des lésions internes, la rate, un traumatisme crânien et des tendons abîmés, j'en oublie sans doute. Je ne viens que maintenant parce que j'en savais pas plus que vous, la famille ne nous a prévenus qu'hier. Cet après-midi, deux psychologues tiendront une permanence en salle B03. Vous pouvez y aller sans autorisation. Et je vous promets de revenir dès que j'en saurai davantage avec, j'espère, de bonnes nouvelles.
Des chuchotements parcoururent la classe alors que le proviseur se tournait vers Mrs. Pilgrim, la prof d'anglais. Celle-ci hocha gravement la tête alors qu'il lui parlait à voix basse. Puis elle le salua, d'un sourire un peu forcé. Les élèves se levèrent quand le proviseur se dirigea vers la porte. Il allait sortir lorsqu'il se ravisa.
Si vous entendez autre chose, rien n'est fondé. N'écoutez pas les bruits, évitez les réseaux sociaux, même si je sais que vous ne pourrez pas vous en empêcher. Courage, et bonne journée quand même.
Ça s'était déroulé quelques jours auparavant. Allongé sur un lit en soins intensifs, il n'est pas sûr que Paul lui-même aurait pu donner la date exacte, mais c'était un samedi. Et il se rappelait de l'heure. 12h35. C'était ces chiffres qui avaient tourné autour de lui lors de sa chute. Une heure donnée par l'usine d'en face, une friche industrielle qu'il avait toujours connue et dont bizarrement l'immense pendule de marque Jazz, accrochée sur la façade, fonctionnait encore. C'était sa dernière vision. Il ne l'avait pas souhaité. Il n'avait rien voulu d'ailleurs, si ce n'est se foutre en l'air en sautant du balcon. Mais l'heure était resté gravé dans son œil. 1, 2, 3, 5. La persistance rétinienne, comme on dit au cinéma. Tout corps qui tombe entame une rotation sur son axe, avait dit le prof de physique. C'est pour ça que la tartine qui vous échappe arrive presque toujours sur la face beurrée. Alors il avait tourné dans l'air, Paul. En enjambant le balcon, il avait murmuré « Comme un rouleau de printemps sous les doigts du traiteur chinois. » Et puis, le vide. Il se rappelait seulement des aiguilles. 12h35 une fois, 12h35 deux fois, comme le danseur auquel le maître de ballet rappelle de fixer un point sur le mur pour ne pas chuter dans sa rotation. 12h35 trois fois. Paul avait pris son envol et ne voulait pas rater sa réception. Mais dans sa danse avec la mort, il ne maîtrisa rien. L'air vivifiant de ce moi qui portait le même nom que lui l'étourdit sans doute juste avant qu'il ne traverse les feuillages, tapant des barres asymétriques à l'écorce dure pour finir sa course dans un buisson de papier gras. Et quand son corps dégingandé eut heurté le sol comme un danseur pantomime, sa tête eut encore la force de se tourner vers le mur de l'usine. Il était alors 12h36. La grande aiguille l'avait trahi juste avant qu'il ne sombre.
Tu le connaissais quand même ? C'était ton pote ?
Un peu, oui, on parlait parfois. Mais je l'ai toujours trouvé bizarre.
Vous parlez de lui au passé. Il est pas mort quand même.
Le coma, c'est tout comme. Mon oncle y est resté 2 ans avant de mourir.
C'est un coma artificiel, n'oubliez pas.
N'empêche, ça craint. Tu te rends compte ? 5 étages, c'est plus haut que le lycée.
6 étages. C'est le pro qui l'a dit. Ça fait combien en mètres ?
Tu vas aller le voir, toi ?
Je sais pas. J'ai un peu la trouille. Et puis, je sais pas quoi lui dire.
Moi, je préfère attendre des nouvelles. On sait même pas dans quel hôpital il est.
Je sais pas si les profs en savent plus.
Hé, t'as révisé les maths ? Putain, j'y comprends rien.
Pas la bonne heure. Furent ses premiers mots lorsque Paul s'extirpa de sa léthargie de demi-mort. De la bouche de l'infirmière sortaient des et des phrases sourdes qu'elle prononçait dans un sourire pour qu'il comprenne qu'elle lui souriait alors que la lumière des néons lui brûlait les yeux à travers les bandages qui couvraient son visage. Paul se souvint d'une main posée sur son front. Et il se dit que jamais il n'avait senti une main autant posée sur son front. Alors il s'endormit. Le grand saut. Pour un peu, on aurait parlé d'athlétisme. Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut. Mais son épreuve à lui n'était pas reconnue par les instances internationales. Il s'agissait de se soumettre à l'attraction terrestre. Une hérésie. Pour un peu, on aurait pu voir dans le square en bas un juge, assis sur son tabouret, lever le petit drapeau rouge indiquant que l'essai était mordu, comme Paul avait mordu la poussière. Pourtant, ça ressemblait fort à de l'athlétisme. 3 longues enjambées entre le fauteuil du salon et la porte-fenêtre, puis le balcon, comme une planche d'appel. Et ses mains, qui saisissent la barre en métal, le saut en rouleau à l'ancienne, comme on voit dans les reportages en noir et blanc, et puis le vide. La barre du balcon qui n'a même pas vibré, Paul est jugé parti. Il valide son saut dans l'indifférence générale. Mais revoilà les juges, les mains sur les hanches, tapant la motte au pied de l'immeuble, tête en l'air, l'œil effaré. À raison de 2,30 m par étage, tu oublies les dalles. Ça fait combien une dalle ? C'est un immeuble des années 60. La hauteur sous plafond n'est pas celle-là. Fais voir ta fiche. Au moins 16 mètres. Peut-être plus. Sans compter la pente. Et les arbres. Paul se fichait bien que les juges évaluent sa performance. Il avait manqué son saut. Pourquoi le mesurer ? Et puis ce public qu'il sent autour de lui, ça bruit, ça suinte de miséricorde, ça plaint, ça geint, ça commente comme à la télé. Que fout le public sur la piste ? La compétition se tient à 8 clos pour ce genre d'exploit. On ne convoque personne. Même sa conscience reste à l'étage. De temps à autre, une main, une mesure, des bruits. Clic, clac, son corps qu'on soulève, l'odeur de pisse, des mots choisis, vifs, qui tranchent. D'autres plus hésitants. Et ces voix qu'il ne connaît pas. Ce médecin qui lui parle comme un débile. Alors Paul, comment ça va aujourd'hui ? Juste l'envie de lever son majeur bien haut et que les juges outrés saisissent l'oreiller et l'étouffent sous sa vulgarité. Quelqu'un ! Mais pas la force. Mais pourquoi sont-ils venus le chercher ? Il gisait bien dans la mousse au pied de l'arbre, comme le poète, Celui qui meurt dans son vallon, avec ses trous rouges à son côté. De bons copains. Il possédait sa propre mort, lui. Seul l'idiot conclut, dit le philosophe. Mais les poètes s'en fichent. Ils passent, sur le côté, l'air coquin. Personne n'oserait les contraindre. Ils possèdent ce privilège inaliénable de recommencer, ailleurs, autre chose. Et ils peuvent aussi choisir d'arrêter là. Ils sont poètes. « Qui est le salaud qui a volé ma mort ?» se demanda Paul. Et puis la douleur qui s'est réveillée. Elle le taquine, le moque, lui rappelle qu'il est bien de ce monde, que ce qu'il croyait être un Val baigné de rayons n'est qu'un nubac de chambre d'hosto qui vous glace jusqu'à l'os. Mais ce n'est pas le froid de la mort, pas même celui de son antichambre. Et ce bras qu'il ne sent plus, il est lourd de plâtre qu'on lui a dit. On vous injecte de la morphine, ça va vous soulager. Essuie-t-on les plâtres après une chute de 6 étages ? À tous les coups, sa chambre est au rez-de-chaussée. Paul entend les voitures circuler, les nouvelles du monde sortir des autoradios, plus loin l'hélicoptère qui se pose. Ils ont vraiment pensé à tout. Savoir depuis combien de temps il repose là ne l'intéresse pas. Il se regarde de l'extérieur et hausse les épaules. Il se fiche bien de son mal. Cette douleur-là est plus supportable que celle d'être encore en vie. Et puis, il a offert son corps au vide. La science l'a racheté pour rien au vide-grenier du pied de l'arbre. C'est cadeau, faites-en ce que vous voulez. Mais personne ne semble décidé à lui injecter un produit pour achever ce qu'il avait pourtant si bien commencé. Il suffirait de fouiller dans l'armoire, celle avec une clé bizarre où on cache les produits à tête de mort. Elle doit bien exister quelque part, cette armoire. Alors il se rend à l'évidence des grands ratages. Comme le sportif qui se trompe 2 jours pour la compétition. Il n'est ni en avance ni en retard. Il est vivant. Et sorti d'affaire, lui souffle le médecin. Mais quand pourra-t-il remarcher, remonter, ressauter ? On apprend plus de ses échecs que de ses victoires, a dit le prof de sport. Et à cet instant, Paul éprouve quand même un certain plaisir à ne pas bouger, à sentir que d'autres s'occupent de lui. Comme dans ses reportages sur les vacances de luxe où il y a même un type payé pour te tendre le PQ. Son odorat est intact. La bonne odeur du savon, celle de l'éther, à laquelle on ne s'habitue jamais. On lui a dit que ce soir, il aura une soupe. Il n'a pas faim. Ça fait déjà longtemps qu'il n'a plus faim.
T'as des nouvelles, toi ? Je sais pas. Ta mère est infirmière, non ?
Elle est en libéral, ma mère. Elle bosse pas à l'hôpital.
Mrs. Pilgrim a dit que le pro allait repasser.
Qui c'est qui lui prend ses devoirs ? Tu crois qu'il peut faire quoi ? Franchement, le bac pour cette année, c'est foutu.
Mais t'en sais rien. C'est un gros bosseur.
Ça répond pas à ma question. C'est qui lui prend ses devoirs ? Et puis soudain, 2 voix qu'il ne reconnaît pas. Des chuchotements, qui prennent la forme de questions un peu insistantes. L'infirmière qui répond d'un ton ferme, mais qui ne peut pas vraiment s'opposer. Quelques instants, c'est tout. C'est mon malade et il est fragile, déclare l'infirmière. Des pas qui s'approchent. Paul est myope à porter des culs de bouteille, mais son audition est celle d'un chat. Il entend des frottements de vêtements inconnus. Ce ne sont pas des blouses,
Pas des vêtements de ville non plus. Ils sentent la fraîcheur de ceux qui viennent du dehors. Un habit plus épais. Et puis ces cliquetis, comme du métal. Et le grincement des bottes sur le lino.
Bonjour, Paul. Nous sommes de la police. On va pas vous embêter très longtemps. Est-ce que vous pouvez parler ?
Le majeur de Paul le démange, mais sa main répond mal. Alors c'est presque dans un sourire qu'un faible 12h35 sort de sa bouche. Il ne perçoit que des ombres. Il y a quelques instants, elle s'agitait un peu. Soudain, elle s'immobilise. L'uniforme à gauche réagit le premier. « Putain, une demi-heure » souffle-t-il. Paul l'entend noter des choses sur son carnet. Il sent bien qu'il les intéresse quand la voix de droite se rapproche, presque à s'asseoir sur son lit. On le presse. Est-il sûr de l'heure ? Sans cela, ça veut dire qu'il est resté 30 minutes tout seul avant que les pompiers n'interviennent. « On est toujours tout seul », répond Paul. Mais les flics poursuivent. Et dans l'appartement, c'était un samedi, il s'en rappelle ? Y avait-il quelqu'un d'autre avec lui ? Imperceptiblement, Paul sent l'infirmière se rapprocher. Ce parfum de vanille. Elle s'agace, a froissé sa blouse. Il s'attend à son intervention, mais tout ceci l'amuse. Il découvre avec les flics que rien dans cette affaire ne semble convenu. Le poète, celui qui avait deux trous rouges à son côté. Il est bien vivant en fait. Il s'est levé, a épousseté sa capote avant de quitter le val moussu en sifflotant, l'air de rien, les mains dans les poches. 4. Nous étions 4. La grande aiguille, la petite aiguille, la trotteuse, finit par conclure Paul. Mais l'infirmière intervient et déclare d'un ton ferme que c'est terminé. Elle leur impose de repasser demain alors que Paul, ressentant soudain une fatigue extrême, s'agite. Mais ils insistent, les flics. Qui est le quatrième ? Paul fait semblant de s'évanouir, se lovant sur la mousse encore tiède du petit val.
Bon, on sait bien que les jeunes n'aiment pas la police. Mais nous, on n'est pas là pour des histoires de shit ou de portables volés. Comme vous le savez, votre camarade Paul Janvier est à l'hôpital dans un état grave et nous menons une enquête. Oui ?
Pourquoi vous menez une enquête ?
On peut rien vous dire. Une enquête de police se fait dans la discrétion, on crie pas ça sur tous les toits. Monsieur le proviseur nous a délégué un bureau en salle B02. Nous y serons présents cet après-midi et demain aussi, si vous savez quelque chose, même un détail. Un truc qui peut vous sembler anodin, mais qui concerne votre camarade, il faut nous le dire. Un tout petit détail, quelque chose de sans intérêt, ça peut être capital pour nous.
Il n'est pas mort quand même.
Non.
Alors pourquoi vous faites une enquête ? C'est vrai ça. C'est juste une tentative de suicide. Enfin, façon de parler.
Non, on peut rien vous dire. Mais si vous avez quelque chose à nous dire, nous sommes preneurs. C'est important pour l'enquête. On vous remercie. Salle B02. Et si vous voulez pas nous parler directement, on va vous faire passer des cartes avec nos noms et numéros de téléphone. On peut même vous rappeler, pour pas bouffer votre forfait.
Alors que les cartes circulaient de main en main, le proviseur raccompagna les deux flics. Leur présence en avait mis certains mal à l'aise, à commencer par les profs qui voyaient d'un mauvais œil la présence d'uniforme au sein d'un lycée. Ça commentait pas mal. Et dans la cour aussi, on se questionnait. Et savoir que les flics ne diraient rien ne faisait qu'agiter les plus imaginatifs d'entre les élèves, qui échafaudaient des théories fumeuses de règlement de compte, d'assassinat. Voilà, c'est le dossier scolaire de Paul Janvier, annonça le pro. Ses dernières copies, toutes excellentes. Les bulletins de l'année, si je peux vous être utile. Les flics insistèrent pour que le proviseur reste à leur côté alors qu'ils entreprenaient la lecture de ces documents administratifs. Le proviseur leur confirma que Paul Janvier était un élève des plus discrets. Aucun problème de discipline. Les absences étaient toujours justifiées. Elles étaient rares d'ailleurs. L'infirmière scolaire ne le connaissait pas. Il n'était qu'un élève parmi des centaines d'autres. Il était passé en terminale avec les félicitations du conseil de classe. Un de ses profs l'avait encouragé à présenter Sciences Po. Les flics ne purent rien tirer des documents étalés sur le bureau. Une scolarité sans histoire, une famille ordinaire. Le père artisan, la mère employée, une sœur plus jeune. Une famille anonyme dans la foule. Mais le proviseur insista. Si rien de bien marquant ne ressortait de tout ceci, et bien qu'il ne voulait pas s'immiscer dans une enquête de police, pourquoi avait-on dépêché dans son lycée deux agents en uniforme pour une tentative de suicide ? Les flics cédèrent en lui parlant en creux, lui révélant ce que l'affaire n'était pas. Non, on ne l'avait pas poussé du sixième étage, non, il ne se droguait pas, il n'était pas ivre ce jour-là, et le lycée n'avait sans doute rien à voir dans tout cela. Et vous pensez quand même trouver des indices ici ? Questionna le pro. Il ne reçut comme réponse qu'un sourire de fonctionnaire, le même qu'on lui rendait quand il s'adressait à sa hiérarchie et qu'on lui faisait comprendre que tout ceci ne le concernait pas.
Tu vas les appeler, toi ? Mon père vote Mélenchon, ça m'étonnerait qu'il accepte.
Ah, moi, les uniformes, je kiffe pas.
Moi, j'aime bien. C'est trop la classe. D'ailleurs, après le bac, je voudrais intégrer la gendarmerie.
Faudra arrêter de fumer, alors.
Moi, je sais rien. Je lui parlais très peu à Paul.
Moi, je balance pas. Ils ont qu'à se démerder, ils sont payés pour ça.
Tu dirais rien, même si tu savais quelque chose ? Tu crains.
Faut arrêter là. Il a juste fait une tentative de suicide. Qu'est-ce que les flics viennent foutre ici ?
Peut-être qu'on l'a poussé.
Tu te crois où ? Dans un film ? Dans ce cas, c'est un meurtre et je vois pas trop ce qu'on vient faire là-dedans.
Tentative de meurtre.
Les flics avaient à peine quitté la chambre quand Paul se mit à s'agiter. L'infirmière crut à un étouffement et prévint immédiatement le médecin qui constata que le malade allait de mieux en mieux et qu'il était beaucoup moins fatigué qu'on ne le pensait. Les derniers examens de ses yeux étaient encourageants, les lésions bénignes se résorberaient sous peu et Paul était loin de s'étouffer. Ou alors peut-être de rire. L'infirmière le prit mal, qui reprocha à Paul son inconscience. « C'est quoi cette histoire d'aiguille ? Vous ne pouviez pas leur répondre simplement ?» Tricher n'est pas au programme dans un hôpital. Si vous souffrez, je suis là pour ça. Mais si c'est du cinéma, je ne suis pas d'accord. » lança l'infirmière agacée. Paul s'en tint à un sarcasme, puis demanda à l'infirmière de l'excuser. Il s'ennuyait terriblement, allongé toute la journée. La venue improbable de ces flics était comme une distraction. Je vous trouve bien mûr pour un jeune homme de 17 ans. Demain, vous allez vous lever. Le kiné doit passer dans la matinée. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et vous ? Vous avez quel âge ? 36. 36 ? Comme le cas des orfèvres ? Souffla Paul. Je suis bien entouré.
Voilà, madame, monsieur, nous vous avons convoqué pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé.
Nous, on croit que c'est un accident. Hein, c'est vrai, hein. Souvent, il a l'habitude de se pencher pour parler à la voisine du quatrième. Il a dû perdre l'équilibre.
Non, mais ça, c'est à nous d'en décider. Votre fils est resté une demi-heure tout seul en bas après sa chute. C'est des gamins qui venaient jouer au foot qui ont prévenu leurs parents.
Nous sommes rendus compte de rien. Quand on l'a appelé pour le déjeuner, Sébastien n'était plus là. Comme il répondait pas sur son portable, on a cru qu'il était parti voir un copain.
Mais vous avez déjeuné ?
Oui, ce sont les pompiers qui sont venus nous prévenir qu'il était en bas. C'est une tragédie.
Les parents de Paul semblaient anéantis face à l'inspecteur chargé de prendre leur déposition et qui entrait à présent dans son ordinateur les informations factuelles qu'il recevait.
Rien ne vous a semblé anormal dans la maison ?
Non. Enfin si. La porte-fenêtre était ouverte. Il faisait froid dans le salon. Nous, on n'a rien vu. Hein. On préparait le repas dans la cuisine et il y avait la télé.
Alors vous avez refermé la porte et vous avez déjeuné.
C'est ça, ouais. C'est les pompiers qui sont venus sonner. C'est eux qui nous ont dit.
L'inspecteur souffla bruyamment. Devant lui, deux personnes. Un père bavard, semblant secoué, et une mère silencieuse, comme absente.
C'est pas fréquent, un suicide devant quelqu'un. D'habitude, les gens font ça quand ils sont seuls.
Mais il était tout seul sur le balcon. On ne l'a pas vu. Hein, c'est vrai. Et puis vous savez, c'est un garçon original, un peu solitaire.
Vous m'avez dit qu'il avait des copains.
Pas vraiment, enfin, pas beaucoup. Il est toujours à travailler dans sa chambre, des trucs d'intellectuel. On ne sait pas grand-chose de ce qu'il fait. Hein.
Vous ne savez pas ou ça vous intéresse pas?
J'ai beaucoup de travail, monsieur. Je pars tôt, je rentre tard, et comme il a des bonnes notes...
Et vous, madame?
La mère de Paul regarda l'inspecteur comme si soudainement, elle réalisait sa présence dans un commissariat.
C'est vrai?
Quoi donc? Qu'est-ce qui est vrai?
Qu'il rentre tard.
Mais concernant votre fils, vous pouvez pas m'en dire plus?
Tout se passe bien à la maison.
Madame, votre fils a sauté par la fenêtre, quasiment sous vos yeux. Je veux bien croire que tout ceci n'était pas prévisible, mais on saute pas en vain. Il doit bien y avoir quelque chose, des signes avant-coureurs.
Non, ça m'a fait un choc, vous savez.
Sur son torse, votre fils a écrit au feutre « Mon con ». On a vérifié, c'est bien son écriture. Je ne savais pas d'où ça pourrait venir.
Non, je ne vois vraiment pas. Souvent, il a des expressions étranges. On a l'impression qu'il est le seul à les comprendre.
L'inspecteur nota la suite de la déclaration, puis il lança une impression qu'il demanda aux parents de Paul de relire avant de la signer. Spirit.